Et on retrouve Nancy Boudria, directrice générale de Voix et solidarité des aidants naturels de la vallée de la Gatineau. Nancy, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Aujourd'hui, tu nous parles, quand je t'ai demandé, tu me parles de quoi là, pour la chronique? Tu m'as dit « l'usure de compassion ». Puis tout de suite, je t'ai dit « qu'est-ce que c'est ça, l'usure de compassion? »
Bien, l'usure de compassion, c'est une profonde érosion émotionnelle et physique qui prend place lorsque les personnes qui aident sont plus capables de se régénérer et de se ressourcer.
Donc, c'est en gros, c'est quand le proche aidant est à bout.
Oui, c'est ça. Okay. Souvent, on va appeler ça le burn-out de l'aidant.
OK.
Parce que justement, c'est un rôle qui est très exigeant. Et puis, le proche aidant n'a pas toujours tous les outils ou les choses que ça y prend pour pouvoir faire ça à long terme.
Mm-hmm.
Pour vous mettre en contexte, j'ai quelques petits statistiques qui justement démontrent les exigences de ce rôle-là. Il y a 70% des soins aux personnes qui ont des incapacités sont offerts par les familles, par les proches aidants. Il y a 60% des aidants qui ont un emploi. Quand il faut concilier, on sait quand même que travailler, ça l'utilise quand même beaucoup de notre énergie, mais aussi c'est qu'ils ont de l'énergie à faire en plus avec en étant proche aidant. Il y a 30 % des aidants qui ont quand même des enfants ou des adolescents, fait que c'est toujours une charge supplémentaire. Puis 50 % des aidants, ils le sont, aidants naturels, mais depuis plus de 4 ans. Parce qu'on sait que sur une courte période, le corps humain est capable de quand même endosser un certain stress, endosser quand même une certaine surplus de charge de travail. Mais plus de 4 ans, c'est que le corps humain a besoin d'avoir un petit peu plus d'aide là, pour pouvoir continuer.
Mm-hmm.
Puis 30 % des aidants ont consulté pour un problème de santé suite à leur responsabilité, comme la dépression, le sommeil, le sentiment d'être isolé. On sait que pendant la pandémie, les aidants, ils se sentent très isolés. Et de ce 30 %-là, 50 % s'occupent de leur enfant ou de leur conjoint et de 30 % s'occupent de un ou de leurs parents.
Et OK.
Dans ce 30 %-là, il y a 80 % d'entre eux qui connaissent de l'inquiétude ou de l'angoisse envers leur rôle. C'est pour ça que, justement, les proches aidants se doivent d'être accompagnés pour, justement, identifier vraiment leur rôle, qu'est-ce que leur rôle comporte et tout ça.
Mais là, on dirait que c'est facile à dire comme ça, là, mais quand on est dans le quotidien, puis on le vit, puis on a de la difficulté, comment on fait pour bien s'outiller, là?
Bien, justement, les caractéristiques du rôle de l'aidant, c'est que souvent, ils utilisent l'empathie pour comprendre puis sentir l'aidé. Là. Tu sais, l'empathie, c'est qu'eux, ils souffrent autant que l'autre au lieu de la sympathie. Là, tu sais.
Oui.
Ils se retrouvent souvent dans la position de donneur, puis souvent, ils reçoivent peu.
Mm-hmm.
Parce que la personne qui est aidée n'a pas la capacité de faire le retour de l'ascenseur. Et ils font face à la douleur, aux frustrations de l'aider, qui souvent, ils peuvent pas rien faire pour eux parce que c'est des choses qu'ils peuvent pas contrôler. Et puis, ils ont peu de temps pour se ressourcer et surtout en considérant les proches aidants d'aînés, parce qu'on sait que c'est eux présentement qui sont les plus touchés.
Mm-hmm.
Ils consacrent plus de 20 heures semaine à aider une autre personne, fait qu'il reste plus beaucoup de temps pour eux, là. Et puis, ils s'oublient souvent face aux besoins des autres, puis ils se sentent, eux, l'unique responsable de la solution pour aider leurs personnes fragilisées.
Puis, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas parce qu'on le pense que c'est la bonne solution, là.
Exactement. Puis, souvent, ils font pas dans le but de nuire ou autre chose. C'est que pour eux, c'est inconcevable que c'est eux qui ont la clé. Souvent, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'ils connaissent très bien leur personne, puis ils ont les bonnes recettes, mais
mm-hmm.
des fois, c'est un petit peu mitigé.
Mais là, si on se rend là, Nancy, si on se rend au bout de nos trucs, là, même si on s'est outillé, tout ça, qu'est-ce qu'on fait une fois rendu? Idéalement, c'est de pas s'y rendre, je comprends, là, mais si on l'atteint ce stade de l'usure de compassion, c'est quoi nos ressources? Qu'est-ce qu'on fait?
Bien, justement, un aidant, il a souvent besoin pour sa santé d'avoir un bon sommeil, une bonne alimentation. Souvent, c'est les choses qu'on va mettre de côté en premier lieu pour justement aider. puis vraiment de se structurer. Beaucoup, je te dirais là que en grande partie, c'est de la structure puis de l'organisation qu'il faut mettre dans tout ce rôle-là.
Okay.
Pour son énergie, le prochain aidant, il faut qu'il ait du plaisir. Parce que justement, de aider, sans jamais avoir de plaisir, c'est que sa motivation va descendre, puis il va se sentir moins à l'affût, là, mettons, des bons soins qu'il pourrait donner là, à son prochain aidant.
Okay.
Et puis des moments de relaxation, parce que on sait que quand même dans une journée, on sait que le taux de stress augmente. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques. On sait que le taux de stress dans la journée monte, fait que c'est de redescendre toujours ce stress-là. Pour la patience, ben c'est d'avoir du temps pour lui, justement, de faire des petits hobbies, des petites activités là que eux, ils peuvent faire, là, mettons, souvent, ils peuvent faire ça tout seuls ou accompagnés de leur proche aidant, de leur aider, là, mettons.
Mm-hmm.
Si ils peuvent prendre l'aider pour, justement, faire des petites activités, c'est que ça va faire une pierre deux coups. Ils vont prendre soin de leur aider, mais en même temps, ils vont prendre soin d'eux. Fait que, tu sais, il y a plein de petites choses comme ça qu'ils peuvent faire. Et puis, garder son calme, prendre des pauses, prendre le temps de respirer puis de relaxer. Puis, sans oublier le lâcher prise qu'on parle souvent, afin d'établir justement nos limites puis nos capacités et les ressources extérieures qui peuvent nous aider à trouver des outils sur mesure pour eux, là. Fait qu'il y a comme plein de choses, mais il y a quand même des symptômes physiques et psychologiques qu'il faut observer, là. Quand on voit, là, mettons, ces symptômes-là, on peut dire, c'est une petite lumière qui allume, dire faire attention. Au niveau physique, il y a les maux de tête, les maux de dos, les indigestions, sommeil perturbé, il y a les rêves dérangeants, la fatigue, le manque d'énergie, l'irritabilité et le manque de concentration. Je sais que je fais beaucoup d'énumérations, là, mais c'est quand même tout plein de symptômes qu'on connaît quand même. Là, tu sais, on sait c'est quoi les symptômes physiques où il faut pas aller. Il y a les symptômes psychologiques, la dépression, la tristesse, la perte d'intérêt, la colère, la culpabilité, la négativité, la perte de sens de l'humour. Fin de compte, il y en a tout plein, là, mais on les connaît quand même, ces sentiments-là, physiques et psychologiques, puis qu'il faut pas y arriver. Puis souvent, on va y aller aussi dans l'usure de compassion. Il y a les émotions aussi par lesquelles les proches aidants passent. Il y a la culpabilité de pas être assez présent ou d'avoir du plaisir sans l'autre, tu sais, parce qu'on se dit tout le temps, je me sens coupable d'avoir pris du temps après-midi avec une amie pendant que mon proche, lui, il était au centre de jour ou autre. Ben, ils se sentent coupables de ça, tandis que c'est légitime, ils se doivent d'avoir du bon temps. Il y a la frustration de tout faire sans reconnaissance, hein, fait que, tu sais, souvent, on va faire des petites choses, mais l'aider a pas toujours le réflexe de dire merci ou de rendre l'appareil, parce que souvent, ils sont trop fragilisés pour retourner l'appareil. Fait que, tu sais, eux, ils se sentent tout tels, hein, qu'ils sont comme sans reconnaissance, mais souvent, je leur dis, discutez avec votre proche aidé. Peut-être qu'il va vous en parler de comment ça peut faire du bien de votre présence et de toute l'aide que vous apportez.
Mais là, Nancy, si on se reconnaît là, dans les énumérations que tu as faites, dans les symptômes, dans tout ça, puis on veut un coup de main, Voix et solidarité des aidants naturels, c'est un bon point de chute pour aller chercher de l'aide?
Oui, justement. Pour nous, chez Voix et solidarité, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir les nouveaux proches aidants, autant que les proches aidants qui sont déjà en place dans nos services.
Mm-hmm.
Et nous, justement, on peut justement faire le bilan de tous les besoins, le bilan de tout ce qu'on pourrait faire comme référencement et de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur aider, pour justement éviter l'usure de compassion, Puis nous aussi, on fait des services, mais aussi on fait du référencement vers d'autres organismes là, dans la vallée. Fait que Voix et Solidarité est l'une des ressources qui peut vous aider, mais avec d'autres partenaires aussi.
Absolument. Puis on vous appelle à quel numéro?
Au 819-441-1001.
Nancy Boudria, directrice générale de Voix et Solidarité des aidants naturels de la vallée de la Gatineau. Merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous mardi prochain.
Parfait, merci, bye-bye.